Matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, des machines et des hommes. Et aujourd'hui, pour mieux comprendre comment les objets que nous fabriquons modifient la relation que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres, je reçois Pablo Jensen.
Bonsoir, Serge Tisseron.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire de physique de l'École normale supérieure à Lyon, spécialiste en modélisation des nanostructures, et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Des atomes dans mon café crème ». Ça a été un beau succès, on en reparlera un peu. Mais alors aujourd'hui, c'est pour un autre livre que je vous ai fait venir, « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ». Alors d'abord, rappelez-nous un petit peu les cafés des sciences que vous avez fondés. Qu'est-ce que c'était ça ?
Alors c'est une vieille histoire, ça date de 20 ans. On commémore les 20 ans des cafés des sciences, qui était une initiative à l'époque inspirée des cafés philo. Et on voulait, disons, en sortir la science des amphis. C'était une opposition à la conférence donnée par un grand professeur qui avait la science infuse. On voulait au contraire parler de science dans un café avec une bière à la main, mais de manière sérieuse quand même. Donc on prenait un sujet du style, je sais pas, les vaccins. On invitait des chercheurs de recherche fondamentale, des personnes qui s'occupaient vraiment de la réglementation des vaccins, mais aussi des associations contre les vaccins, par exemple. Et le pari, c'était de dire, on donne cette parole-là et le public, à la fin, sort en général en se rendant compte que c'est plus compliqué que ce qu'il pensait. Oui, c'était ça un peu le but.
Alors Pablo Jensen, vous étiez tout à fait dans ce mouvement déjà qui vise à faire en sorte que la transmission ne soit pas seulement verticale, hein, d'un expert à des gens censés ignorants, mais tout autant horizontale, hein, inviter des personnalités, mais aussi des représentants d'associations à débattre ensemble.
Oui, ça se voulait vraiment assez, disons, démocratique et une manière un peu adulte de voir les sciences, en fait, en faisant le pari de l'intelligence des gens.
Et des atomes dans mon café crème, c'est évidemment en relation avec le café des sciences.
Voilà, c'était un clin d'œil à ces cafés des sciences et ça parlait des atomes et qui représentent la manière qu'ont les physiciens de voir la matière. Un physicien, il voit un matériau, il pense tout de suite atome. Et donc, ce livre essayait de montrer quel est l'intérêt de cette vision, mais aussi les limites, en fait. Et en gros, ça montre que les atomes sont vraiment intéressants lorsque vous êtes dans les laboratoires et que vous avez affaire à de la matière purifiée. Et sinon, les atomes ne sont pas très, très pertinents.
Oui, je voulais dire que si un scientifique pense aux atomes au moment où il est devant son petit café, il ne va pas beaucoup en profiter.
Non.
C'est valable aussi pour les psychanalystes. Hein. Et pour les psychiatres, il faut qu'ils aient une autre idée que leur connaissance sur les troubles mentaux pour savourer les relations. Voilà. Alors écoutez, comme je disais, je vous ai fait venir pour nous parler de votre dernier livre qui s'appelle « Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation ?» Et alors vous commencez ce livre d'une façon que j'ai trouvée tout à fait intéressante, c'est-à-dire que vous vous attachez à nous montrer que finalement le rôle de la science aujourd'hui ne fait que reprendre le rôle dévolu à d'autres instances autrefois. Hein. Vous parlez des dieux, les dictateurs, la science. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cette histoire qui commence il y a très longtemps et qui arrive jusqu'à maintenant ?
C'est vrai que la science s'est retrouvée embrigadée un peu malgré elle, mais pas tout à fait malgré elle quand même, dans une histoire de pouvoir, et elle a servi à fonder la légitimité du pouvoir dans la période moderne, disons. C'est-à-dire que quand la société, suite à énormément de transformations très complexes, n'a plus reconnu l'autorité, disons la légitimité d'un roi divin, de droit divin, on a cherché, il faut légitimer de toute façon les institutions, il faut les fonder quelque part. Et la science, disons, depuis l'aura qu'elle avait avec Galilée et Newton, semblait une institution vraiment importante qui pouvait légitimer l'ordre social et les gouvernements. Et c'est le gouvernement des experts, si vous voulez. Et je pense qu'on peut retracer, disons, jusqu'à aujourd'hui, sans problème, cette utilisation des résultats scientifiques comme manière de légitimer des décisions politiques.
avec donc un risque d'idéaliser, voire même de déifier la science.
Bien sûr, nous y sommes.
Oui, on en entend beaucoup parler avec l'intelligence artificielle d'ailleurs, qui est parfois présentée comme une sorte de nouvelle divinité.
Bien sûr, et on a des discours tout à fait magiques sur l'intelligence artificielle, mais on en a sur d'autres sujets scientifiques. Et disons, ce que j'essaye de faire, et c'est en continuité avec les cafés, c'est d'essayer de montrer les sciences en pratique pour essayer de les, disons, démystifier, mais sans les détruire, c'est-à-dire construire un regard qu'on a quand on est chercheur, qu'on connaît de près les sciences pour les avoir faites. On se rend compte des fragilités, mais des points importants aussi. Et donc, ça permet d'avoir un regard moins magique sur la science et donc de la respecter, mais de manière raisonnable.
D'accord. Alors, pour avoir ce regard moins magique sur la science, peut-être on va essayer de la définir. Comment vous la définiriez-vous?
Alors, les philosophes ont cherché pendant très longtemps une définition un peu tout terrain de la science, un critère de démarcation entre ce qui serait science et pas science, qui en général avait plus une visée de politique pour essayer de reléguer des savoirs comme la psychanalyse d'ailleurs à une époque, ou le marxisme, etc. Et en fait, je crois que une définition tout-terrain ne marche pas, et c'est la formule de Feyerabend qui est bien connue et souvent mal interprétée, en fait, qui essayait de prouver par l'absurde, si vous essayez de trouver une définition tout-terrain de la science, la seule qu'on peut trouver à la fin, c'est tout est bon, tout marche. Mais c'était une manière, disons, de prouver par l'absurde et par une formule un peu ironique, cette quête d'un critère unique de démarcation, disons, entre savoir scientifique et opinion. Donc, il faut être un peu plus modeste, et donc j'aime bien l'expression d'Alain Desrosières, donc qui est un sociologue des statistiques notamment, et qui connaissait très bien de première main les statistiques aussi, donc un praticien mais devenu sociologue en même temps, et donc qui dit que la science construit des choses qui tiennent. D'accord, donc ils tiennent entre elles parce que grâce aux expérimentations, on s'assure que on a des faits robustes.
Qu'il y a une logique interne.
Voilà, qu'il y a une logique interne, une cohérence, donc aussi bien intellectuelle mais que empirique aussi. Mais donc qui tiennent aussi les hommes, puisque les hommes sont tenus, disons, grâce à la robustesse de ces faits-là.
Donc ils y croient, qu'ils soient nombreux et y adhérer.
Voilà, alors croire est peut-être pas meilleur terme, disons que. Disons que la robustesse permet quand même, disons, de tenir face aux objections, puisque la science, c'est quand même, c'est Claude Bernard, je crois, qui disait que l'art, c'est moi et la science, c'est nous. Il y a une dimension vraiment collective à la science, et donc les premières personnes que vous devez convaincre, et c'est pas facile quand vous voulez établir un fait scientifique, ce sont les collègues, et c'est très important que cette communauté de scientifiques soit vivante et disons qu'il y ait des hétérodoxes, qu'il y ait des contestataires pour que ce soit vivant et que on obtienne des faits qui tiennent face aux objections des collègues et ensuite face aux objections éventuellement du public. Et dans l'exemple du réchauffement climatique, c'est important que les climatologues aient établi, disons, des faits suffisamment forts. Et c'est jamais, la science n'est jamais sûre à 100%, mais suffisamment forts pour tenir face aux intérêts contraires. Et on connaît des intérêts très puissants qui voudraient dénier le changement climatique. Et donc, voilà, la science parvient quand même à construire des faits qui tiennent dans ce sens-là d'Alain Desrosières. Je trouve que c'est une assez bonne définition, modeste, mais pratique.
Donc, qui tiennent de leur cohérence interne, qui sont cohérentes avec d'autres disciplines, des recherches d'autres disciplines, et qui produisent un accord relatif entre d'abord les chercheurs entre eux et ensuite un public plus large.
Voilà, et ça, grâce, disons, c'est les sciences, en tout cas celles que je connais bien, sont basées sur des faits empiriques, et donc elles arrivent à trouver dans la réalité, dans la texture de la réalité, certaines relations stables, certaines stabilités comme la conservation de l'énergie en physique ou l'équilibre pour la température, et grâce à ces îlots de stabilité qui sont un peu des cadeaux que la nature nous fait, rien ne ne prédisposer la nature éventuellement à être comme ça, mais on trouve des relations stables, et c'est à partir de ces relations stables qu'on peut bâtir quelque chose qui tient en fait.
Alors Pablo Jensen, vous nous rappelez d'abord dans votre ouvrage que tout a commencé de ce point de vue-là avec Galilée.
Oui, Galilée, c'est un de mes personnages préférés aussi. Je crois qu'il faut aujourd'hui encore lire et relire les dialogues qu'il a écrits il y a 4 siècles maintenant. C'est vraiment une prose tout à fait vivante. Ça se lit vraiment en rigolant. Il a une plume très, très ironique et très affûtée parce qu'il devait justement convaincre non seulement les collègues. À l'époque, disons, la communauté savante était à peine naissante. C'était vraiment convaincre ses mécènes d'abord, qui le finançaient puisqu'il n'avait pas de bon salaire à l'université. l'université et tout le public. Et donc, il écrit de manière très, très alerte. Vraiment, ça se lit très bien aujourd'hui. Et donc, c'est un personnage très complexe avec beaucoup de contradictions, mais qui, le premier, est arrivé à convaincre que les mathématiques étaient autre chose qu'un petit jeu pour les géomètres. À l'époque, un prof de maths était payé beaucoup moins qu'un prof de philosophie ou de théologie. C'est une discipline mineure. Et lui, il a montré que dans certaines conditions, on pouvait, en fait, transformer un problème physique en un problème mathématique. Et une fois qu'on arrivait à faire ça, et c'est lui qui invente le détour par le laboratoire pour faire ça, eh bien, on est ramené dans le domaine des mathématiques où on peut avoir une certitude absolue.
Alors, Pablo Jensen, pour vous, les expériences de Galilée, ça va de soi, mais alors peut-être pas pour tous nos auditeurs. Alors, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler l'histoire?
Alors, disons, l'histoire la plus connue est peut-être celle de la chute des corps. Alors, oui. On dit que Galilée est monté en haut de la tour de Pise, il a laissé tomber des objets. Bon, on pense que c'était un peu plus une légende qu'autre chose, mais il a des idées très intéressantes. Prenez, par exemple, une boule de pétanque et une boule de tennis, d'accord? Et Galilée, il va pas juste les lâcher comme ça dans l'air, il va comparer les chutes dans différents milieux. Donc, si on les lâche dans l'eau, alors, si vous lâchez ces deux boules dans l'eau, vous voyez bien que la balle de tennis, elle flotte et la boule de pétanque, elle tombe. Donc, les mouvements sont très différents. Si vous les lâchez dans l'air, la boule de pétanque tombe un petit peu plus vite, mais c'est presque imperceptible. Donc, déjà, vous voyez que dans un milieu qui est beaucoup moins dense que l'eau, les deux vitesses sont presque similaires. Et Galilée a cette idée un peu d'idéalisation et de dire, eh bien, vous voyez que quand on passe d'un milieu dense à un milieu moins dense, les vitesses s'égalisent. Eh bien, moi, j'extrapole à la limite. Si le milieu n'était pas là du tout, c'est-à-dire dans le vide, eh bien, les deux tomberaient exactement avec la même vitesse.
Donc ça, Pablo Jensen, c'est une extrapolation, c'est pas un fait d'observation. Alors, vous nous rapportez d'ailleurs un épisode télévisuel, hein, racontez-nous ça, avec Claude Allègre en acteur principal.
Donc Claude Allègre c'était en 1999, je crois, il était ministre de l'Éducation, et donc il prend cet exemple de la boule de pétanque et de la balle de tennis, et il dit, si on demande ça à un élève, l'élève va dire, c'est la boule de pétanque qui tombe en premier, il dit, mais c'est complètement faux, ça fait 2000 ans qu'on a compris que ça tombe exactement en même temps et tout élève devrait savoir ça. Et il s'en est suivi une polémique avec le Canard Enchaîné, très très drôle d'ailleurs, où on a fait appel à Georges Charpak, qui auréolé de son prix Nobel, a tranché en disant que finalement le canard avait raison et pas tellement Allègre, parce que à moins de faire l'expérience dans le vide, ce qui est quand même pas très courant pour les élèves. Quoi. Mais c'était intéressant parce qu'Allègre, comme ministre de la Recherche ou de l'Éducation, ça symbolise bien ce côté un peu positif. Et pour lui, en gros, le monde idéal, c'est le vrai monde, en fait. Et le reste, c'est une approximation. Et ça, c'est un héritage de Galilée qu'on a aussi, en fait, qui est le premier à considérer que le vrai monde est ce monde idéal où le principe d'inertie s'applique, c'est-à-dire qu'un corps qu'on lâche ne ralentit jamais. Donc ça va être le principe de base de la mécanique. Parce qu'on accorde une sorte de priorité au monde mathématique, en fait.
Vous voulez dire, Pablo Jensen, qu'il faut se garder d'interpréter cette anecdote par rapport à Claude Allègre, parce qu'il peut faire rigoler un moment, mais que c'est plus intéressant de la prendre en compte comme pouvant nous éclairer sur le monde dans lequel les scientifiques peuvent être tentés d'évoluer, qui n'est pas toujours le monde de la réalité concrète, quotidienne.
Oui, c'est quelque chose d'assez banal d'une certaine manière. Une fois qu'on pratique son activité préférée pendant des heures et des heures, on a l'impression que la vie se résume à ça. Mais il faut vraiment sortir de sa discipline et essayer de comprendre que le monde n'est pas comme on voudrait qu'il soit.
Lorsque vous dites aussi d'important autour de Galilée, Pablo Jensen, c'est que il commence à transformer le monde, hein, avec des plans inclinés, par exemple. Il se contente pas d'observer et de mesurer. Il construit des protocoles, et c'est la construction de ces protocoles qui va lui permettre d'en tirer des conclusions. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que pour un scientifique, c'est parfois compliqué de construire des protocoles, mais qu'en sciences sociales, ça va devenir beaucoup plus compliqué encore. Et alors, ces protocoles, vous dites qu'il faut qu'ils permettent de réaliser des expériences qui sont à la fois enregistrables, reproductibles et résultant d'une seule cause. Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, mais c'est ce que Galilée a réussi à faire. C'est-à-dire que si vous laissez tomber un objet comme ça simplement, eh bien, il a un mouvement tellement rapide et tellement difficile à percevoir que vous ne pouvez pas tellement le mettre en équation. En revanche, si vous prenez une boule, et il décrit très très bien comment il faut faire ça, vous la lancez le long d'un plan incliné, le mouvement est beaucoup plus ralenti, vous pouvez déjà mesurer la hauteur, mesurer le temps qui s'écoule, etc. Et donc, ça vous permet, en gros, d'idéaliser ce mouvement de chute, d'accord, mais, et ce mouvement de chute-là, il peut ensuite le mettre en équation. Mais c'est un mouvement de chute spécifique dans son laboratoire où, par exemple, il a enlevé le frottement. Parce que le frottement, il ne sait pas comment le mathématiser. Mmh. Donc, vous avez deux solutions face à ça. Soit vous dites, comme les aristotéliciens, c'est essentiel le frottement, il ne faut pas le négliger. Et donc, on va faire une physique un peu approchée, pas très mathématique, mais qui sera, disons, pertinente pour le monde réel. Soit vous dites, comme Galilée, eh bien non, je vais, puisque moi j'aime bien les maths, je vais me placer dans une condition où les maths vont être efficaces, donc quitte à idéaliser, à partir dans un autre monde. Et le pari, c'est que petit à petit, je vais pouvoir complexifier mon monde idéal, c'est-à-dire rajouter le frottement de manière mathématique pour pouvoir me ramener au monde réel, mais par ce détour par le laboratoire. Et donc, le point important, c'est Galilée, le pari, c'est le détour par le laboratoire, par la simplification, va me permettre de revenir dans le monde réel en étant plus fort. Et des fois, ça marche, mais ce n'est pas toujours le cas.
Oui. Et puis, il ne faut évidemment pas confondre ce qu'on fabrique dans le laboratoire avec la réalité. Vous avez une très belle phrase, vous dites que le scientifique transforme le monde pour l'assimiler, transforme la réalité pour la rendre assimilable. Et vous avez cette phrase, comme le tigre qu'on doit dompter pour l'exhiber dans un cirque. Il ne faut pas croire que le tigre qu'on exhibe dans le cirque, c'est le tigre qui vit de façon sauvage dans la nature.
Voilà, j'aime bien cette image du tigre parce que elle introduit juste assez de discontinuité entre le monde, disons, le monde tel qu'il va et le monde tel qu'il est perçu par les scientifiques. C'est-à-dire que il est continu au sens où c'est bien un tigre qu'on a dompté, d'accord? On n'a pas mis un petit chat docile, on n'a pas mis un robot qui va faire exactement tout ce qu'on lui a dit de faire. C'est vraiment un tigre qu'il a fallu dompter et on ne peut pas dompter facilement les tigres ni tous les animaux. Donc c'est bien le même tigre et on parle bien du monde réel d'une certaine manière. Mais en même temps, il y a une discontinuité parce que si vous domptez pas le tigre, ben vous n'allez pas le faire sauter dans un cerceau de feu dans le cirque. Mmh. Et donc, cette image du tigre dompté vous conserve cette tension qui est toujours présente chez les scientifiques, où il faut transformer un petit peu le monde, mais en essayant de le garder aussi près que possible du tigre sauvage, disons, et du monde réel. Et cette tension-là, qui est propre aux sciences expérimentales, elle est, à mon avis, indépassable. Mais il est important de l'avoir en tête constamment, quoi.
Et dans cette tension, vous nous dites qu'il y a deux pôles vers lesquels certains scientifiques peuvent pencher. Certains penchent d'un côté, d'autres penchent de l'autre côté. Et vous appelez ces deux pôles, en reprenant, je crois, John Law, vous l'appelez le pôle baroque et le pôle romantique de la recherche scientifique. Alors, ça, c'est beau, ces deux mots, baroque et romantique. Ça correspond à quoi, en fait, pour les scientifiques?
Oui, j'ai trouvé très belle cette image. Donc, c'est un sociologue des sciences, John Law, qui introduisait deux manières de voir le monde. Et en fait, ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression, moi, disons, personnellement, d'être passé de l'une à l'autre. Et donc, je les comprends et je les aime bien les deux. Mais si vous voulez, les romantiques, c'est ceux qui voient le monde comme fait de petites particules homogènes, des atomes, si vous voulez. Et la complexité du monde, elle vient de la grande, disons, combinatoire de ces petits atomes. Et voilà, c'est le plus grand, plus c'est grand, plus c'est complexe, a priori, parce que vous mélangez énormément de particules, mais qui, elles, sont homogènes. Le baroque a la sensibilité opposée, et lui, il pense que chaque petite partie du monde est très très complexe, chaque entité est très complexe et qu'on essaye de simplifier éventuellement en combinant. Et ça, je pense que cette vision qui part de la complexité et montre que les sciences vont plutôt simplifier, et ça c'est quelque chose, disons, vers lequel je suis devenu de plus en plus sensible au fur et à mesure que le temps passe. C'est plus une vision des sciences sociales, je pense.
Donc vous êtes passé d'une posture plus romantique, scientifique romantique, à une posture plus scientifique baroque.
Oui, j'ai cette sensation, oui. Et c'est vraiment une transformation assez intime, effectivement, qui s'explique pas facilement, disons. Donc dans le livre, je pense qu'on voit cette transformation progressive d'une ambition de modéliser, qui est plus celle de la physique, à une vision de la complexité du monde et donc à une réticence à cette simplification, ou en tout cas à voir les aspects politiques de cette simplification. Et c'est quelque chose que j'essaye d'objectiver avec des arguments scientifiques et des arguments empiriques, mais en même temps, c'est quelque chose qui correspond à une véritable transformation que j'ai ressentie, en fait, en tant que chercheur.
Et est-ce que chacune de ces deux postures a sa dérive spécifique? Vers quoi peuvent se laisser entraîner les scientifiques romantiques et vers quoi peuvent se laisser entraîner les scientifiques baroques, dans le pire des cas?
C'est une bonne question. Alors, les romantiques, on voit bien, en fait, ils peuvent être... se croire les maîtres du monde et être les dieux de leur petit monde qu'ils ont créé. Et voilà. Et donc ça, on voit bien un peu le docteur Follamour, un peu, disons, maître du monde. Est-ce que les baroques peuvent être aussi, aussi dangereux que ça? Peut-être que ce qu'ils risquent, c'est plus une incapacité à faire théorie, disons, une autocensure. Devant la complexité, ils rechignent à simplifier et du coup, ils en restent un peu passifs et ils n'arrivent peut-être pas à produire. Peut-être qu'ils s'arrêtent, mais ça, c'est peut-être plus une question de psychanalyse.
Trop respectueux de la complexité, en quelque sorte.
Voilà.
Pour une formule un peu caricaturale.
Voilà, peut-être que c'est ça. C'est une certaine réticence à avancer, du coup.
Mais écoutez, pour continuer à avancer, nous allons maintenant écouter une musique que vous avez choisie et nous allons surprendre les auditeurs par le commentaire que vous allez en faire. Alors Pablo Janssen, vous avez donc choisi cette musique pour nous permettre de comprendre comment s'articule le tout et les parties. Et parce que c'est aussi un élément important de votre livre, Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation. Alors expliquez-nous un petit peu le tout, les parties, comment les comprendre dans cette musique?
Eh bien, il faut peut-être revenir à cette question de romantique et baroque, justement. Vous voyez, pour les romantiques, le tout émerge à partir de parties relativement homogènes et simples, d'accord? Et c'est, comme je le disais, cette combinaison qui va créer de la complexité. Donc ça, c'est le romantique. Le baroque, il dit, c'est les parties qui sont complexes, et donc le tout est plus petit que les parties, il n'est pas plus grand que les parties. Et je prends cet exemple du groupe vocal dans lequel je chante, parce que c'est
rappelez-nous son nom.
Qui s'appelle Jinga, qui veut dire l'énergie, disons, de la capoeira au Brésil, en principe, mais disons, voilà, c'est l'énergie artistique aussi, mais de combat aussi, enfin voilà, l'énergie corporelle. Et... donc ce groupe, est-ce qu'il faut le voir comme un tout qui émergerait de parties simples, donc dans la vision romantique? Et je pense que c'est une expérience assez banale pour qui doit construire quelque chose collectivement, que ce soit un groupe de musique ou tout autre groupe, une association, de voir qu'une vision plus réaliste, quand on participe au processus et qu'on ne le regarde pas de loin comme un gouvernement centralisé ou comme quelqu'un qui veut modéliser un monde à part, eh bien c'est que chaque personne est complexe et pour créer quand même du commun et donc un groupe qui va chanter ensemble quand même, eh bien il faut, si vous voulez, le tout c'est la partition annotée, c'est-à-dire qu'on part d'une partition, chacun apporte des petits bouts et on n'a pas de chef dans notre groupe et donc on est très sensible à cette question de comment on va construire ce commun qui va nous permettre de chanter ensemble et d'annoter la partition. Et donc vous voyez que le tout est plus petit puisque il est un côté partiel de chacun d'entre nous, qu'il est là pour nous coordonner, mais qu'il est bien plus petit que la complexité de chacun des interprètes. Me la paso, me la paso, me la paso.
France Culture, Matière à penser, est toujours avec vous, Pablo Jensen, pour comprendre pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation. Alors, dans votre livre, vous prenez un exemple pour montrer comment les sciences qu'on dit parfois tenter d'appeler dures et les sciences sociales ne travaillent pas exactement dans les mêmes territoires. Vous prenez l'exemple du thermomètre. Donc, vous expliquez qu'il a fallu des siècles pour concevoir un thermomètre qui mesure les variations de température et que dans le domaine des sciences sociales, eh ben un thermomètre qui mesure le bonheur, la satisfaction, c'est beaucoup plus compliqué à mettre au point.
Oui, c'est une idée en fait qui date du 18e, enfin 19e de Jeremy Bentham, qui est très connu pour son panopticon en fait, qui dit il faudrait construire un thermomètre moral pour savoir si, en gros, si un pays va mieux ou moins bien, comme un malade si vous voulez, s'il a plus ou moins de fièvre, et du coup ça permettrait au gouvernement de savoir si ce qu'il fait améliore ou pas la santé de son malade entre guillemets, donc de la société. Et donc, c'est l'ancêtre du PIB, si vous voulez, du produit intérieur brut. Et en fait, la difficulté, c'est un bon exemple, je pense, pour montrer un des éléments clés qui empêche une science de la société d'être aussi robuste, si vous voulez, qu'une science naturelle, c'est le manque de stabilité et de reproductibilité du monde social. C'est-à-dire que si la température, c'est quelque chose qui marche bien et qui nous donne une bonne indication de la chaleur qu'il fait, disons, c'est parce que si vous mettez deux corps l'un à côté de l'autre, ils vont se mettre automatiquement à la même température. D'accord? Ça, c'est un fait empirique, on le constate.
Ils n'ont pas de frontières.
Si, ils ont des frontières, mais ils finissent quand même par s'entremêler. Voilà, oui, c'est ça. Ils n'arrivent pas à retenir la température. Ça s'enfuit toujours. Il y a d'autres choses qui s'enfuient toujours comme ça. Bon. Et donc, cette température, l'équilibre fait que, eh bien, quand vous avez un thermomètre, vous savez qu'il est à la même température que le milieu dans lequel il est plongé, ce qui est la moindre des choses, mais c'est pas garanti, en fait. Et donc, le fait que deux corps connaissent cet équilibre thermique, ça vous permet, vous voyez bien, d'établir des relations robustes. Il n'y a rien de tel pour le PIB, en fait. C'est pas, deux pays qui ont des PIB, différents, il se passe rien de spécial. Il n'y a aucune relation constante. Et donc, si vous n'avez pas de relation stable comme ça, eh bien, en fait, tout ce que vous allez bâtir sera aussi fragile, disons, que ce manque de stabilité.
Alors vous nous dites qu'il y a un risque particulier qui guette dans le domaine des sciences sociales, c'est le risque de l'essentialisation, de réduire la complexité de certains phénomènes à un paramètre seul qui est censé être l'essence du phénomène global.
Voilà, c'est un risque qui est très important pour les sciences sociales parce que, à cause toujours, on revient à cette idée de relation stable. C'est-à-dire que quand Newton prend une planète et la réduit à sa masse, pour l'inscrire ensuite dans les équations de la gravitation, on se scandalise pas, alors que on pourrait dire c'est très réducteur, on essentialise cette planète juste avec une masse, c'est bon. Et en fait, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que dans le cas de Newton, utiliser cette masse, ça vous permet de relier ce que fait une planète à ce que font d'autres planètes, et ça de manière très robuste, d'accord? Eh bien, si en revanche un être humain, prenons l'exemple d'un chercheur, vous le quantifiez par le nombre d'articles qu'il a publiés ou par n'importe quel autre paramètre d'ailleurs, ces quantifications-là ne vont reposer sur rien de stable comme la gravitation, et du coup c'est pas fiable du tout, et on ne garde que le côté réducteur en fait, d'accord? Et donc c'est un risque, mais un risque que courent les romantiques, justement. On y revient à cette question. Oui. Les romantiques, s'ils veulent contrôler un système de particules comme ça, ils doivent les caractériser, et c'est très tentant, c'est ce que font les économistes, si vous voulez. Ils disent, les gens, ils poursuivent leur intérêt, on leur attribue une fonction d'utilité ou une satisfaction, et hop, on peut contrôler et devenir le dieu de ce petit monde de gens qui agissent pour des raisons qu'on est censé connaître. Et donc, on essentialise pour pouvoir contrôler, en fait.
Est-ce qu'on pourrait dire que, comme on n'arrive pas à transformer suffisamment l'environnement pour le réduire à un schéma simple, on est tenté de privilégier certains éléments par rapport à d'autres?
Mais disons, réduire, ça va, je pense, toujours avec l'idée de contrôler. Et historiquement, si vous voulez, toutes les statistiques et tout ça, ça vient de la volonté d'un gouvernement central de contrôler les populations et donc de les standardiser et de les réduire à quelques paramètres simples de contrôle. Donc je pense que c'est toujours relié l'un à l'autre en fait. C'est standardisation, contrôle, vision romantique, tout ça, il y a une cohérence en fait dans tout ce projet-là qui est le projet en quelque sorte de la modernité en fait au niveau politique.
Et alors, pour avancer un petit peu dans la compréhension des différentes sources d'erreurs qui guettent les sciences sociales, vous nous annoncez qu'il y en a quatre. Alors est-ce qu'on pourrait les envisager successivement ? Je cite la première, vous nous dites un premier risque de la démarche scientifique dans le domaine des sciences sociales, ce sont les corrélations accidentelles.
Alors, on peut trouver effectivement beaucoup de corrélations un peu loufoques dans le monde social, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un phénomène évolue de la même façon qu'un autre que les deux sont reliés par une relation de cause à effet. Donc, par exemple, on a remarqué que le nombre de suicides aux États-Unis était très, très corrélé au budget de la science. Et donc, si on y voit une relation, oui, bien sûr, si on y voit une relation de cause à effet, on va dire, on va réduire le budget de la science pour réduire le nombre de suicides. Évidemment, c'est juste une coïncidence, en fait. D'accord?
Vous me donnez un autre exemple qui paraît beaucoup plus convaincant, et là, je me suis laissé avoir, une relation entre la myopie des enfants et l'existence d'une veilleuse dans leur chambre. Alors ça, vous nous dites, c'est une corrélation accidentelle.
Voilà, et en fait, si on essaye de trouver la causalité, donc c'était que les enfants dont la veilleuse était allumée la nuit, pendant la nuit, étaient plus souvent myopes que ceux dont la veilleuse était éteinte. On avait trouvé cette corrélation et donc on a dit, oulala, éteignez les veilleuses parce que ça provoque la myopie. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait une autre chose qui était très corrélée aussi à la présence des veilleuses allumées la nuit, c'est que les parents myopes voient moins et donc ils allument la veilleuse et que la myopie est héréditaire aussi. Et donc, plutôt que d'imaginer que c'est la veilleuse qui cause ça, on peut imaginer plus plausiblement que ce sont les, disons, que la myopie est héréditaire et donc c'est juste une coïncidence en fait.
Alors Pablo Jensen, vous nous dites une deuxième cause possible d'erreur, ce que vous appelez les causes conjoncturelles dont l'effet dépend du contexte.
Alors ça, c'est quelque chose de encore plus vicieux que la corrélation, c'est-à-dire que vous voyez la technique de Galilée. C'est, si vous voulez, au fond, la technique de Descartes, c'est-à-dire devant un phénomène complexe, je le simplifie, d'accord ? La méthode analytique, je sépare en différentes parties, j'étudie chacune qui est simple de manière séparée, et puis après, je n'ai plus qu'à combiner. Ça marche bien si l'effet de la cause 1 est le même que la cause 2 soit présente ou pas. D'accord. Si c'est le cas, donc si je prends une pierre bleue ou une pierre verte, d'accord, l'effet de la couleur sur le fait que la pierre va tomber, ça ne joue aucun rôle. Et donc je peux combiner la couleur et puis la gravitation, etc. ou différentes forces. Les forces, je sais les combiner. En revanche, dans le monde social, si vous ajoutez deux causes, peut-être que le fait que vous ajoutez la deuxième va changer la manière dont la première joue. Donc on peut prendre, il y a plein d'exemples dans le monde quotidien. C'est quel est l'effet sur le prix d'un loyer, par exemple, de passer du 5e au 8e étage, par exemple. Eh bien, donc j'ai une même cause, donc je vais à un étage plus élevé. Donc, quelle est la conséquence, quel est l'effet de cette cause? Eh bien, on ne peut pas dire autre chose en sciences sociales que ça dépend, parce que ça dépend, en fait, s'il y a un ascenseur ou pas, par exemple. Ça dépend s'il y a du vis-à-vis ou pas, vous voyez. Donc, l'effet d'une cause dépend du contexte. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile. Cette approche analytique est beaucoup moins utile quand vous ne savez pas recombiner les causes.
Alors, il y a une troisième cause que vous évoquez et vous la résumez en invitant chaque fois à poser la question « Qui agit ?»
Ça, c'est aussi une vieille question de la sociologie et c'est une vraie cause, disons, de surprise et d'intérêt aussi pour l'humain. C'est quand vous faites quelque chose, vous ne savez pas qui a vraiment agi quand vous l'avez fait. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas si vous êtes marié ou si, voilà, disons, quand on demande à quelqu'un, vous êtes marié avec telle personne, il va évidemment donner une réponse tout à fait, disons, intime ou personnelle. Donc, il va dire, c'est moi qui ai choisi, etc. Et en fait, quand vous faites des statistiques, vous vous rendez compte que, je ne sais pas, les cadres se marient avec les cadres et les ouvriers avec les ouvrières. Et donc, on voit bien que c'est pas un choix tout à fait personnel. Donc, il y a, voilà, mais en même temps, on n'est pas agi par sa classe sociale. C'est pas si simple que ça. Donc, l'action humaine est une vraie énigme qui est vraiment passionnante et voilà, c'est une source d'incertitude et on ne sait pas bien l'attribuer à une caractéristique de l'humain. On revient toujours à cette vision baroque. L'humain est très complexe et donc on ne peut pas juste choisir une caractéristique et savoir, disons, savoir que c'est celle-ci qui va déterminer l'action et qui va faire agir l'humain.
Et donc, du coup, ça nous introduit à la quatrième cause d'erreur possible hein, dans une démarche scientifique appliquée aux sciences sociales. Les personnes sont très complexes et finalement, les milieux sont très peu homogènes.
Encore baroque romantique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que les humains sont très hétérogènes, les uns, disons, voilà, les uns réagissent pour une raison, il y a des âges différents, et en plus, il y a des combinaisons d'âge, statut social, lieu de résidence, etc. Et donc, vous savez, il y a même toute une industrie, une sous-discipline scientifique, dont le but est de produire des populations synthétiques. Mm-hmm. Donc, ils essayent de créer, par exemple, une population française qui prend bien toutes les corrélations, c'est-à-dire que vous avez assez de femmes de 50 ans habitant à tel endroit avec des enfants, etc., etc. C'est très, très compliqué, cette corrélation des différentes caractéristiques, et ça rend la modélisation très, très difficile, en fait.
Mais est-ce que vous pensez pas que maintenant, avec les progrès actuels du big data, justement, ce rêve des scientifiques romantiques va pouvoir devenir réalité?
Certains le pensent, moi je n'y crois pas du tout. Mon intuition, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas de relations stables, on revient toujours, disons, j'essaye de tirer les enseignements de ma pratique de la physique, où on aboutit à des prédictions robustes, pour comprendre quelle est la cause de cette, disons, de cette robustesse, et c'est pas la puissance des ordinateurs, c'est vraiment le fait qu'on a des relations stables, et dans l'humain on n'en a pas, et donc vous pouvez mettre toutes les big data que vous voulez, et tout le deep learning et tout ça, en fait il y a beaucoup de fantasmes, parce que souvent c'est des algorithmes qui sont en boîte noire, on ne sait pas ce qu'ils font, et on ne sait pas non plus évaluer ce qu'ils produisent, puisque c'est des boîtes privées qui ont tout intérêt évidemment à majorer leur capacité à prédire des choses.
Vous allez nous parler de Cambridge Analytica.
Bah, bien sûr, c'est un des exemples connus, mais il y a aussi la police prédictive, il y a aussi, voilà, il y a beaucoup d'exemples où, comme c'est des logiciels privés, c'est difficile à évaluer, donc tous les cas que j'ai pu regarder où scientifiquement il est possible d'évaluer, en fait, ça marche pas très bien. Et il y a toute une branche, en fait, que, disons, des sciences cognitives qui s'appelle l'heuristique, qui montre que notre approche du monde complexe est plus performante dans beaucoup de cas que des approches très, très rationnelles, entre guillemets, très mathématiques, parce que les approches, disons, c'est ce que j'essaye d'appeler une rationalité écologique, c'est-à-dire il faut que votre manière de comprendre soit adaptée à l'objet que vous essayez de comprendre. Donc si c'est des objets simples, mathématiques dans le labo, à ce moment-là, les maths et les formules, ça ira très bien. Mais quand c'est le monde réel qui est très incertain, qui peut changer du jour au lendemain, eh bien c'est d'autres règles, une autre rationalité qui est plus efficace, et ça on peut le montrer de manière assez mathématique d'ailleurs. C'est peut-être un peu paradoxal, mais on peut montrer très bien que des règles simples, heuristiques, sont plus efficaces que des règles très compliquées quand l'environnement est incertain.
Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que des neuroscientifiques qui voudraient comprendre les méthodes d'apprentissage devraient aussitôt quitter le laboratoire et aller dans les classes?
Ah, il y a une tension, en tout cas, je pense. On revient au pari de Galilée, en fait. Oui. Cette histoire de neurosciences, là, ça me fait penser au pari de Galilée, qui est « passons par le labo pour revenir plus fort dans le monde », en fait. Ce pari est d'autant plus facile à gagner que le monde dans lequel vous revenez est contrôlé. C'est-à-dire les physiciens, les atomes et tout ça, ils ont réussi à créer l'électronique parce qu'ils travaillent avec des matériaux très purifiés. Disons, le silicium qu'on a dans nos puces électroniques, c'est un matériau tout à fait artificiel créé dans le laboratoire dans des conditions d'ailleurs drastiques de pureté. Voilà. Bon. Si vous n'avez pas la possibilité de contrôler le monde à ce point-là, et je pense qu'en éducation, les élèves sont pas encore purifiés à ce point-là, eh bien, le détour par le labo est un pari beaucoup plus risqué. Alors, on peut jamais mettre, je pense, de bornes à l'inventivité humaine ou à ce qu'on peut réussir à faire. Mais en tout cas, tout ce que je connais des sciences me pousse à être un peu, sceptique sur la capacité à trouver des règles, on va dire, universelles pour améliorer l'éducation. Je pense que politiquement, en plus, c'est important de laisser toute la place à l'expertise des enseignants qui savent adapter, disons, différentes règles au contexte et à la spécificité des élèves. Donc, OK, pour enrichir, disons, la palette des savoirs des enseignants, mais avec une bonne formation continue, etc. Mais je ne crois pas du tout à des recettes, disons, miracles qui seraient trouvées dans les laboratoires et qui seraient tout terrain.
Oui, alors je vais pousser une petite pointe de provocation. Alors qu'est-ce que vous pensez de la constitution du Haut Conseil scientifique de l'éducation nationale, où il y a une représentation importante des chercheurs en laboratoire et une représentation assez modeste des enseignants, des praticiens de terrain?
Voilà, donc je suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation, mais disons tout ce que je connais des sciences me fait dire que le détour par le laboratoire est risqué et que politiquement, en plus, c'est très risqué de dessaisir les acteurs de terrain de leur expertise. Donc vraiment, ce détour par des techniques et qui ferait, disons, des enseignants, des techniciens juste capables d'appliquer des règles, ça, je pense que c'est vraiment une mauvaise vision, une vision vraiment un peu du siècle dernier, si vous voulez, du haut modernisme appliqué à l'éducation. Donc méfions-nous.
Peut-être moins une vision des scientifiques eux-mêmes qu'une vision du pouvoir politique.
Voilà, ou de certains scientifiques instrumentalisés par le pouvoir politique. C'est pas la première fois qu'on aura vu ça.
On revient à ce qu'on disait au début, hein, comment aujourd'hui la science est destinée à légitimer des programmes politiques. Très bien, ben écoutez, ce que je voudrais encore vous demander quand même par rapport à tout ce que vous nous apportez, c'est si vous aviez peut-être une recommandation à faire aux recherches actuelles en sciences, recherches actuelles dans le domaine du numérique. Vous avez parlé des scientifiques romantiques, des scientifiques baroques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque qui vous paraît plus grand contre lequel vous pourriez nous inviter à nous prémunir, ou prémunir les scientifiques?
Voilà, je veux pas avoir cette position surplombante. Ce que je voudrais quand même, disons, ce que je ressens, moi, c'est, et du coup, je suis un peu réticent à continuer, d'ailleurs, à faire des modèles sociaux, c'est que, à partir du moment où on développe des méthodes formelles, la mathématique, donc, qui sont capables de combiner énormément de données pour essayer d'extraire des informations, donc je dis aux chercheurs qui travaillent sur ces méthodes-là, à qui ça va servir? A priori, ça va servir à Google, ça va servir à Facebook, c'est-à-dire à ceux qui détiennent ces données-là. Faites des méthodes qui sont capables de traiter énormément de données, c'est à eux que ça va servir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce qu'on veut plutôt privilégier un usage, disons, plus personnalisé et plus centré sur les individus et sur les citoyens du numérique? Et donc, faites attention, disons, ce que vous faites, même si ça vous semble lointain, les effets de vos recherches fondamentales, a priori, ça ne peut servir qu'à Google ou Facebook. Donc, voilà, moi, j'ai quelques réticences à travailler sur ce domaine-là.
Oui, on rejoint un petit peu vos préoccupations en créant les Cafés des sciences, encourager l'intelligence collective.
Voilà, et je pense qu'il y a de la place pour que le numérique aide aussi à l'intelligence collective. Donc, essayons de privilégier des dispositifs de ce type-là qui permettent, comme Wikipédia, par exemple, pour prendre des choses simples, où on arrive à générer de l'intelligence collective par la coordination, mais pas par cette position surplombante du chercheur romantique, disons, qui veut contrôler son petit monde et qui va faire des outils mathématiques comme ça.
Et si vous aviez un conseil à donner aux parents, aux familles, ça serait aussi de développer l'intelligence collective. Alors.
Bien sûr. Mais ça, il y en a beaucoup qui savent faire. Hein.
Ben écoutez, merci beaucoup Pablo Jensen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et rappelons-nous, il n'y a pas d'homme-machine, il n'y a pas de machine-homme, il n'y a que des hommes et des machines. Matière à penser. Pablo Jensen, Bernard Laniel, Céline Leclerc, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.